Bonjour à chacun. J'aime bien visiter les églises. Il y a toujours des atmosphères très différentes d'une église à l'autre. Il y a un cœur pour chaque église. Il y a un appel pour chaque église. Amen. Et puis j'aime bien découvrir ces différentes tonalités, couleurs, parce que ça me permet de voir toute la diversité du peuple de Dieu. Et c'est agréable de découvrir autre chose, comment on vit, comment on chante, des chants même. C'est écrit « Chant versois numéro 17 », j'ai trouvé ça super. Ah, vous avez vos propres chants, excellent. Hein? Non mais c'est super, c'est aussi vous, hein? C'est une partie de vous, c'est super. C'est qui l'espèce de guignol qui est là devant puis qui va faire le pitre devant vous là? Je m'appelle Régis. Et je travaille pour la mission ACP. Bon, il y a encore un site troll là-dedans, c'est le vieux t-shirt. Hein. Mais c'était avant, c'était CACP, maintenant c'est ACP. ACP, ça veut dire Action pour les chrétiens persécutés. Et les personnes dans la détresse. C'est long, hein, comme nom. On va dire ACP, c'est plus court. Je travaille là depuis bientôt 6 ans. Et puis, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça me fait chaque fois revenir très loin en arrière. J'ai 41 ans aujourd'hui, même si je ne les fais pas. Non, pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui, mais à l'heure actuelle. mais ça me fait revenir quand j'avais 15 ans. Parce que quand j'avais 15 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas où j'allais aller étudier, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire comme métier plus tard. Alors je suis allé voir l'orientateur professionnel. Et puis on a discuté et tout, puis il a étalé une soixantaine de cartes, des photos, devant moi sur une table. Et puis ces cartes représentaient des métiers, des professions. Mais une image pouvait représenter pour moi quelque chose et pour quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Donc c'était très ouvert. Puis il m'a dit, choisis-en 3 de métiers, de professions qui t'intéressent. Puis après on en discute. Mais je me rappelle pas les 3, je me rappelle de 2. Et ça me fait toujours marrer, parce que la première c'était... missionnaire. Eh ben, c'est ce que je suis devenu. Et la deuxième, c'est humoriste. Et je m'amuse à faire le pitre dans les églises où je vais. Donc, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo parce que Dieu nous donne des capacités, des couleurs, comme on disait tout à l'heure, différentes. Et toutes ces couleurs, Dieu peut les utiliser. Dieu peut a mis quelque chose en chacun d'entre nous qu'il peut utiliser pour sa gloire. Et même l'humoriste peut être utilisé pour Dieu. Celui qui fait le singe, il peut être utilisé pour Dieu. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui dans ce que j'aimerais vous amener en tirant des exemples de la mission pour laquelle je travaille. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un héros surnaturel pour servir le Seigneur. Jusque-là, on semble tous être d'accord. Ouais, mais moi, je sais rien faire. Ouais, mais moi, je suis pas capable. Ouais, mais moi, de toute façon, j'ai trop péché. Ouais, mais moi, je suis dans une situation qui va pas. Ouais, mais moi. On a toujours des tonnes d'excuses ou des tonnes de freins. Certains le verront comme un frein, certains le verront comme une excuse. C'est pas important. On a vécu tous peut-être aussi des blessures qui nous retiennent de faire le pas en avant. On a peut-être peur de faire ce petit pas qui nous amène à entrer pleinement dans la volonté de Dieu, même si c'est par une petite dose au départ. Parce que nous avons été blessés, parce que nous avons été déçus, parce que nous avons été trahis. Mais malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que même à partir de toute petite chose, le Seigneur peut nous utiliser pour changer des vies autour de nous. Amen. Ah, c'est vrai, c'est moi qui ai le... Je contrôle tout là, ici. Ouh. Voilà. ACP, c'est une mission qui se définit sur 3 mandats. Soutenir l'Église persécutée, c'est dans notre nom, et c'est ce par quoi la mission a commencé en 1972 en Allemagne. Mais c'est aussi de l'aide aux personnes dans la détresse, puisque dans l'histoire même d'ACP, alors qu'un comité de pasteurs répondait à l'appel de détresse des chrétiens derrière le rideau de fer, et en particulier en Roumanie, il y a eu des inondations en Roumanie, et il semblait évident qu'on ne pouvait pas aider que les chrétiens. Et le travail humanitaire fait partie intégrante de l'ADN d'ACP depuis ses fondements. Mais évidemment, si on amène une aide physique, il est bon d'amener aussi un espoir nouveau, une espérance qui va au-delà de la vie. Et nous le faisons toujours au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être des témoins de Jésus dans le monde au travers d'une action humanitaire et de témoigner de l'amour de Jésus pour chacun. Quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, ses croyances ou ses appartenances politiques. Donc déjà en 1970, des expéditions régulières vers les pays de l'Est pour amener des Bibles, notamment, et de la littérature, ont été organisées depuis l'Allemagne. En 1988, ACP Suisse a été fondée en organisation, une association autonome, bien que liée aux bureaux allemands et autrichiens. Nous avons trois bureaux principaux, à quoi sont venus s'ajouter ces dernières années la Tchéquie et l'Italie. L'Italie est encore dépendante de la Suisse, mais nous espérons pouvoir lui laisser le libre champ dès qu'elle sera financièrement autonome. Pour discuter de ce thème dont on a parlé, que j'ai introduit tout à l'heure, j'aimerais qu'on prenne un texte qui peut paraître un peu choquant au départ. Juste histoire de se secouer un peu. Puis ensuite, on reviendra sur une parole de Jésus qui apaise un peu les choses, et puis on verra des exemples de comment chacun d'entre nous peut répondre à l'appel de Dieu, l'appel missionnaire. On va lire donc dans Jacques 2. J'aime beaucoup l'épître de Jacques parce que j'aime bien qu'on me secoue un peu. Et Jacques, il est fantastique pour ça. Il secoue les gens, il ne va pas par quatre chemins, il dit des fois un petit peu des paroles presque violentes. On va en voir quelques-unes d'ailleurs ici. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Alors déjà, si on s'arrête là, puis qu'on ne prend pas la suite, on va se poser déjà l'une ou l'autre question. Attends, je croyais que c'était par la foi qu'on était sauvé. La Bible se contredit-elle? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Pour illustrer ça, j'aime bien l'exemple du ministère de guérison qui vient dans une église, qui prêche sur la guérison, et à la fin du message, il donne le micro au pasteur. Prie. Ben quoi, t'as prêché toute la journée, là, toute la matinée sur la guérison, ben vas-y, montre-nous maintenant. Ah non, mais ça je laisse au pasteur. Pourquoi ? Ben, s'il se passe rien, c'est pas de ma faute. J'aime bien cette illustration parce qu'elle est très parlante. Si je parle de la guérison, maintenant on va prier. Amen. C'est normal. Mais la même chose pour le reste de la foi. Si je crois en Jésus et si je suis son enseignement, si ma foi ne produit pas des œuvres à l'extérieur, c'est comme si elle était morte, elle ne sert à rien. Tout mon discours, c'est du blabla. Ça ne sert à rien. On va voir qu'est-ce que Jacques nous dit, parce qu'il précise les choses quand même. Quelqu'un dira, oui, c'est bon, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. C'est bien, chacun son boulot. Et puis comme ça, on est un, à l'image de Dieu. Ouais, vas-y, c'est bon. Hein. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai que j'ai la foi. Ah, c'est intéressant quand même. On prend la chose à l'envers, là. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi. T'as la foi? Montre. Sans agissement, pas de foi, pas de démonstration. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. C'est en allant, mettant en pratique ce que je crois. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Si ma foi ne me met pas en action, ça sert strictement à rien. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi? Est-ce que vous avez un exemple de la foi? Moi, le meilleur exemple que je trouve, c'est les freins de la voiture. J'habite à Yverdon, et à côté d'Yverdon, il y a la montagne qui monte jusqu'à Sainte-Croix. Et je vais à Sainte-Croix relativement régulièrement. J'aime bien redescendre, et chaque fois que je redescends de Sainte-Croix, je pense à la foi. Je ne les vois pas, mes freins. Mais si je ne crois pas que les freins vont fonctionner, je ne descends pas. Parce que sinon, je finis dans le ravin. Mais pourtant, je m'engage quand même sur la route parce que je sais que les freins sont là. Je vois la pédale, d'accord, je vois la pédale. Mais encore, mais en même temps, je ne vois pas les freins. Et puis, je ne vois pas le liquide de freinage. Enfin, c'est mécanique. Mais ça peut lâcher. Mais je descends quand même la montagne. Avec Dieu, c'est la même chose. Pourtant, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on a une peine incroyable à accepter que la foi, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les choses qu'on ne voit pas, je ne les vois pas mes freins. Mais je sais qu'ils sont là et je m'engage sur la route. Veux-tu reconnaître homme sans intelligence? T'es gentil, Jacques. Que la foi sans les œuvres est morte. Morte? Vraiment? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Waouh! Mais il avait la foi. Mais quand il a mis la foi en action, ça a été mené à la perfection. Donc il manque quelque chose à la foi s'il n'y a pas les œuvres. Ainsi s'est accompli ce que l'Écriture a dit. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Et là, on est sous l'Ancienne Alliance. Hein? Et même, on est encore avant l'Ancienne Alliance. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Attention, on n'est pas sauvé par les œuvres. Seulement. D'accord ? Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors j'aimerais quand même préciser. Nous sommes sauvés quand nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur, et qu'il est mort pour mes péchés, et que je l'accepte dans ma vie pour qu'il ait pris ces péchés-là. D'accord ? Donc le salut est une chose. D'accord ? Mais le salut me pousse maintenant à l'action. D'accord ? Donc, pas dire que j'ai prêché que la foi, que c'est par les œuvres qu'on est sauvés. Pas du tout. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et ça, ça ne change pas. Mais Dieu nous invite à passer à l'action. J'aime la douche chaude. Et alors ? Parmi toutes les sensations physiques qu'on peut expérimenter sur cette terre, l'une de mes préférées, c'est la douche chaude. Tu te mets sous le jet douche, là, puis tu bouges plus, puis tu juste te concentres sur cette sensation incroyable de cette eau qui masse et qui coule le long du corps. C'est juste génial. Ça ne change pas le monde. C'est bizarre, pourtant c'est génial. C'est fantastique, ça fait du bien, c'est décrispant, mais ça change rien. Ça change même rien dans ma propre vie. Bon, thérapie à l'eau chaude, peut-être, la thalasso, ça peut faire du bien si tu fais ça régulièrement. Mais en même temps, ça ne va rien changer dans ma vie de tous les jours, rien du tout. Ça ne va pas changer quelque chose dans la vie de ma femme ou de mes enfants, rien du tout, à part la facture d'eau. Ça ne change rien. Même ça, ça ne m'a pas fait faire des études de plombier. Je ne suis même pas aujourd'hui, alors je travaille dans la mission, je n'installe pas des douches au Groenland ou en Afrique centrale. Ça n'a rien changé et ça ne change rien. Pourtant, j'aime ça. Avec la foi, c'est la même chose. Je peux dire que j'aime Dieu, mais ça ne change rien s'il n'y a pas quelque chose qui suit derrière. Je peux aimer, mais je l'aime du bout des lèvres. Il y a un texte qui m'interpelle dans la Bible qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » Toute ta force, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se bouger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut activer. C'est pas aimer très fort comme ça. Non. Il y a un investissement à faire. Il y a quelque chose où je dois sortir de mon confort ou de ma bulle ou de mon aquarium. Alors Jésus nous dit, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père !» Oh, imagine le roi qui dit ça, c'est quand même beau. Hein. « Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. » J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Waouh ! Alors, on pourrait lire la totalité de la parabole de Jésus, mais j'ai pris juste la partie, entre guillemets, positive. Parce que c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Regardez bien ces verbes que Jésus a utilisés. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ?
L'action.
Très bien. Pardon ?
Très pratique.
Très pratique, exactement. La vie de tous les jours. De l'action pratique la vie de tous les jours. Il n'y a pas un seul verbe qu'on pourrait qualifier de spirituel. Pourtant, c'est sur cette base-là que le roi dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. » Il n'y a pas besoin d'être un héros de la foi. Il n'y a pas besoin d'être un Superman. Il n'y a pas besoin d'être ultra qualifié par des actions concrètes de la vie de tous les jours. J'accomplis la volonté de Dieu. Mais c'est super déculpabilisant. Il est marqué « Si t'as sauvé 41 personnes. » Non ? Non, c'est pas marqué ça. Ah non. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, et en même temps, c'est ça qui plaît à Dieu. On pourrait résumer ces versets-là en « aimer », tout simplement. Aimer. Vous savez la différence entre la loi de l'Ancien Testament et la loi de Jésus ? Vous la connaissez ? Elle est très simple. Très très simple. C'est la même. Mais il y en a une, elle dit « tu dois », »,« tu dois pas », et l'autre, elle dit « aime ». Mais c'est la même. Dans ceci est accomplie toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais c'est la même. C'est bizarre parce que quand on y pense, on pourrait se dire c'est presque plus facile d'aimer que tu dois et tu dois pas. Mais c'est la même. Il y en a une, elle est pratique, et l'autre, elle est accusatrice. Alors ne soyons pas sous la culpabilité, mais regardons des choses toutes simples que le Seigneur nous appelle à vivre et à donner autour de nous. Déjà dans sa propre famille, dans sa propre communauté, dans son église, mais aussi dans son environnement social immédiat. Le travail, les relations dans les activités associatives, le sport, etc. Les copains, quoi ? Ceux qui sont juste à côté. Nous avons vu dans le texte qu'il a dit « J'étais en prison et vous êtes venus me voir ».
Tout a commencé par la distribution de matériel humanitaire. Criminels endurcis, kidnappeurs, meurtriers et autres dealers s'adoucissent et finissent par s'ouvrir. Ivo Dor, le responsable d'un centre culturel, partage l'espoir 3 fois par semaine au travers de la foi chrétienne. Ali, ancien criminel, est devenu chrétien ici en prison. Depuis sa libération, il s'est engagé dans l'équipe d'Ivo Dor parmi les réfugiés. Les prisonniers déclarent « Je ressens ici une étrange paix. Je trouve difficile de croire en Jésus. Mais ici, je me sens libre. » 20 hauts criminels qui ont joué les patrons en prison sont entre-temps devenus les responsables d'une sorte d'église de cellules. Les gardiens disent que les psychologues ont tout tenté pendant des années avec les détenus, sans succès. Mais quand ces derniers sont devenus chrétiens et ont appris à pardonner, tout a changé. Aujourd'hui, ce sont les gardiens en personne qui installent dans la cour de la prison la piscine pour les baptêmes. Les détenus sont enfermés, mais ils sont libres.
Alors oui, c'est peut-être difficile en Suisse de visiter les prisons. Mais ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est pour tout le monde? Probablement pas. Mais c'est quand même quelque chose de possible, les Gédéons le font régulièrement. Et avec Ali, que vous avez vu dans le film, en automne dernier, nous sommes descendus dans la prison de Grosse-Pierre, si je ne me trompe pas, enfin du côté de Sierre en Valais. Et une quinzaine de prisonniers sont venus écouter le témoignage d'Ali. Et ils ont vraiment été touchés, on le voyait dans leurs yeux. C'était en Suisse, et c'était extrêmement sympathique. Et plusieurs ont vraiment été touchés, on ne sait pas. Ben, en tout cas, ça a été semé. Et les Gédéons qui étaient avec nous sont retournés régulièrement en disant « Nous sommes là pour discuter avec vous, si vous voulez en parler, etc. » Il y a des possibilités ici en Suisse de visiter les gens en prison. Ce n'est pas facile tous les jours parce que les lois sont de plus en plus restrictives, surtout quand il s'agit de parler de Jésus. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. Là, nous sommes en Syrie. La Syrie a été le théâtre de guerre féroce avec l'État islamique qui a une idée très bizarre. Ils ont détruit tous les hôpitaux. Partout où ils sont passés, ils ont tout détruit. Les écoles, les hôpitaux, tout, absolument. Et donc, comment venir en aide à une population qui a besoin, qui a un besoin urgent d'assistance? Nous avons distribué de la nourriture, beaucoup de nourriture, mais nous avons envoyé un camion hôpital, là, qui a été, donc c'est un semi-remorque qui a été transformé en clinique médicale et qui a sillonné le nord de la Syrie et de l'Irak pendant des mois. Il est toujours en Syrie, il est toujours en fonction. Il accueille entre 300 et 1000 visiteurs, patients par jour, des fois plus, des fois moins. Des gens font jusqu'à 20 km à pied pour venir se faire soigner ici. Dedans. Cette œuvre a été remarquée notamment par l'armée américaine qui a financé pendant des mois les médicaments et puis le Croissant Rouge international sur place fournit à l'heure actuelle les médicaments, le matériel nécessaire jusqu'à ce que nous décidions d'arrêter le projet. Et le Croissant Rouge, ce ne sont que des musulmans qui travaillent au Croissant Rouge. Mais ils ont décidé de soutenir le travail des chrétiens. C'est pas mal aussi. Hein. Nous avons eu des miracles dans cet hôpital. Des guérisons, plusieurs guérisons, des conversions, énormément, et notamment le médecin, qui était un kurde musulman, volontaire, pour venir aider. Après que ceux qui accompagnent le camion et qui font des animations pour les gens qui attendent, ont décidé de prier pour un jeune garçon qui est mort, Intabula. Ils ont prié pour lui, et après 5 minutes de décès, il est ressuscité. Le médecin et ses 2 infirmières se sont convertis et ils viennent au culte maintenant, tous les jours, tous les dimanches. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Beaucoup de projets d'eau dans beaucoup d'organisations humanitaires. C'est quelque chose qui est essentiel. Ça, c'est un projet qui a été mené en Éthiopie et financé notamment par le département de l'aide au développement et de la coopération allemand, où des digues ont été installées. C'est un système qui est très bien pensé puisqu'il ne bloque pas l'eau, il retient l'eau. La différence, c'est que en bas, plus bas, en aval de la rivière, ils ont toujours de l'eau. Mais quand pendant la saison des pluies, ça coule à flot, il faut retenir une partie de cette eau pour qu'elle puisse entrer en terre et puis garder précieusement, filtrée par la terre pour obtenir de l'eau toute propre. Vous voyez la différence entre l'eau qui a été pompée suite à la construction de ces digues et l'eau qu'ils prenaient avant dans des bassins où l'eau stagnait. Ça fait une grosse différence, et notamment puisque les bêtes et les êtres humains ne boivent plus l'eau à la même source et donc il y a des transmissions de maladies qui se font plus. distribution de nourriture, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Les photos, je les ai prises moi quand j'étais au Liban en 2015, dans la plaine de la Beka. Ici, on a distribué 81 portions en l'espace de 35 minutes. C'était très très bien organisé. Tout était noté, vérifié, ce qui fait que chaque famille a reçu son cadre, son paquet alimentaire. Qui permet, donc là vous avez de la différentes sortes, un petit peu l'exemple ici de ce qu'on a distribué, ça permet à une famille de vivre pendant 10 jours et on distribuait ça une fois par mois. On a soutenu pendant plusieurs années 600 familles, aujourd'hui on est plus en stand-by, c'est difficile de continuer parce que les conditions ont changé, notamment les conditions politiques. Il y a des gens qui aimeraient retourner en Syrie, beaucoup sont retournés mais pas encore. On sait qu'il y a 1,2 million de réfugiés au Liban. Pour une population normale de Libanais de 2,4 millions avant la guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un tiers des gens qui habitent au Liban sont des réfugiés. Un tiers sont des réfugiés syriens. C'est assez impressionnant, hein. Mais nous sommes toujours dans les camps pour visiter ces gens, mais distribution de nourriture, c'est beaucoup plus restreint aujourd'hui.
Déjà deux récoltes de perdues. Au Sud-Soudan, la faim prend des proportions dramatiques. Pour l'heure, ACP Néhémie a déjà livré deux camions de nourriture qui ont assuré la survie temporaire d'environ 8000 personnes. Notre aide se concentre pour le moment sur Raja, une ville du Nord-Ouest. Fatima est enceinte de 9 mois. En raison du manque de nourriture, elle souffre d'anémie et la malaria est venue assombrir le tableau. Elle espère pouvoir rapidement retrouver des forces. Depuis la mort de sa femme, personne ne s'occupe de Jirgin. Étant trop âgé pour travailler ses champs, il ne lui reste que la faim. Il n'y a plus aucune semence dans le pays. C'est là-dessus que se concentre la deuxième phase de notre action. Un bon millier de fermiers recevront rapidement les semences nécessaires. La stabilité et une bonne saison des pluies sont les conditions pour que ces gens puissent retrouver leur autonomie.
Un des problèmes au Sud-Soudan, c'est que on a la guerre entre des factions ennemies et une guerre civile qui dure depuis des années et des années. Et c'est très très difficile d'atteindre les populations. Et il y a de la nourriture. Le programme alimentaire mondial a amené beaucoup de nourriture, de graines, de semences au Sud-Soudan, mais ils sont dans les silos et ils restent là. Et notre chef de projet sur place, il a insisté, mais moi je sais où aller distribuer, je sais comment les distribuer, ouvrez les silos. Et pendant des mois, il a eu des refus, mais à force d'insistance, et parce qu'il est très très connu dans tout le pays, parce que le Seigneur lui a ouvert les portes un peu de façon miraculeuse et assez extraordinaire, il a pu distribuer de la nourriture et des semences jusque dans des villages qui sont inatteignables en véhicule, qu'on ne peut atteindre qu'à pied, où il faut entre 3 jours et 11 jours de marche à rejoindre. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Ouh, ça c'est toute la problématique des réfugiés, c'est difficile ça. Hein, on a toujours l'impression qu'on va se faire arnaquer par le réfugié. Et alors ? Ça c'est notre centre d'accueil en Grèce, où depuis des années et des années, nous accueillons des réfugiés, nous prenons soin d'eux. Il y a plusieurs témoignages que vous pouvez retrouver dans notre journal qui est disponible à la sortie. Des choses absolument extraordinaires se passent, énormément de conversions et des vraies conversions. C'est-à-dire que chez nous, on ne baptise pas quelqu'un parce qu'il est juste passé ici puis qu'il dit avoir donné sa vie à Jésus. Il doit suivre un programme de formation de disciples de 3 mois avant d'obtenir le droit d'être baptisé. Et on a eu une expérience assez extraordinaire, c'est que un groupe d'Afghans est arrivé comme réfugiés. Ils ont reçu l'évangile, il y en a 11 qui se sont convertis, qui ont décidé de retourner en Afghanistan. Et 10 jours après qu'ils soient repartis en Afghanistan, un d'eux appelle notre chef de projet en Grèce et lui dit « Il faut absolument que tu me rejoignes ici en Afghanistan. » Ah bon, pourquoi ? Je suis entré dans le premier village autour de là où je viens. J'ai prêché l'évangile, j'ai 30 conversions, qu'est-ce que j'en fais ? Les gens en ont soif, et en particulier dans le monde musulman. Les gens ont soif de Dieu. Ils attendent qu'on leur parle, qu'on leur témoigne de Dieu. Et mes collègues, qui sont régulièrement en relation avec des réfugiés, disent toujours la même chose, c'est assez extraordinaire. Ils disent « Dieu nous a envoyé tous ces réfugiés ». Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous les a envoyés ou pas ? Ça, c'est à chacun de décider. Mais pour eux, c'est extraordinaire. Ils voient ça comme une opportunité de prêcher l'évangile à toutes les nations. Impossible d'aller en Afghanistan, vous allez vous faire quick en quelques secondes ou quelques jours, si vous avez la chance. Mais les Afghans qui débarquent chez nous, ils sont prêts à entendre parler de Dieu. Les Iraniens sont prêts à entendre parler de Dieu. Les Saoudiens et les Libyens et bien d'autres encore. J'aimerais aussi parler un peu de valorisation par un film. Il faut savoir qu'au Maroc, la femme n'a pas très bonne... elle n'a pas un statut extraordinaire. La constitution a été changée 2 fois ces 20 dernières années pour améliorer la condition de la femme, et malgré tout, elle reste défavorisée et surtout très mal vue si elle sort seule dans la rue. Voyez que toutes ces femmes-là sont voilées, à l'exception d'une, c'est la femme de notre chef de projet, qui aime passer du temps avec ces femmes. Elle les valorise en les accueillant chez elle, en leur montrant de quoi elles sont capables avec leurs mains. Elle utilise ses qualités artistiques pour toucher les femmes de son entourage. Elles font de la joaillerie, de la couture, du tricot, de la marqueterie, de la maroquinerie, toutes sortes d'art. Ce projet est tellement extraordinaire que nous avons eu l'année passée 120 inscrites pour ce programme. Les femmes viennent par groupe, 4 groupes par semaine. Et on n'avait pas assez de place pour elle. Seulement, nous avons pu seulement en accueillir 70. Et nous avons comme projet de construire un centre plus grand pour à pouvoir accueillir plus de monde. Mais nous avons aussi besoin d'aide, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que la femme de notre chef de projet qui arrive à mener ça. Il faudrait pouvoir rémunérer une deuxième personne. Mais c'est un projet qui porte du fruit. Les familles sont touchées, les maris sont touchés, les enfants sont touchés. Et l'action paquet de Noël. Il y a des gens qui connaissent. Hein. C'est aussi une façon de servir. Toute simple. Par sa présence, par la confection d'un paquet. Et puis, c'est une manière d'entrer dans le cercle global. Nous sommes souvent... On regarde un peu ce que j'ai fait et quels sont les fruits que j'ai produits. Mais l'action paquet de Noël, c'est une chaîne de solidarité. Et c'est ça qui est beau. Il y a celui qui achète le stylo, il y a celui qui emballe le paquet, il y a celui qui dessine quelque chose sur le paquet, il y a le camionneur qui amène le paquet, il y a l'église qui prend les noms des gens qui vont recevoir un paquet, et puis il y a les gens qui vont distribuer les paquets. Ça fait une longue liste de personnes. Ce matin, j'aimerais vraiment pas que vous repartiez en culpabilisant. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Bien au contraire. Qu'est-ce que ton talent peut apporter au monde ? Moi, j'ai pas de talent. Ah oui ? Alors j'aimerais te raconter l'histoire d'une femme de pasteur qui habite ici en Suisse, à Neuchâtel, qui a prié pendant 3 ans pour un ami, qui lui a parlé de Jésus en lui citant des versets bibliques, qui lui a raconté sa vie, qui lui a témoigné, puis rien à faire, 3 ans ! Et un jour, enfin, il donne sa vie à Jésus. Elle aimerait savoir, c'est quoi qui a fait la différence ? C'est quel est le verset biblique qui l'a touché enfin ? Et elle ose la question, elle le voit, elle lui dit, c'est quoi qui a fait la différence ? Et il lui a répondu, c'est ce jour où j'allais pas bien, tu m'as pris chez toi, tu m'as offert un café et tu m'as écouté. Il n'y a pas besoin d'être un super héros. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités hors normes. Il y a juste besoin d'un cœur et d'aimer les gens. C'est une photo qui a été prise par un collègue quand j'étais dans un camp de réfugiés en Syrie. Ça, c'est moi. Il est 7h du matin. On est dans un camp de réfugiés. Moi, j'ai un diplôme de marketing management, un master à l'université. Je peux vous dire que là, ça sert à rien. Il est 7h du matin, je me retrouve dans le camp de réfugiés, puis je regarde autour, je dis, mais je sers à quoi? Je sais rien faire de mes mains. Rien. Moi, je sais utiliser ma tête, je sais parler. Mais je parle ni le kurde, ni le turc, ni l'arabe. Je sers à rien. Et je me sentais mal à l'aise. Et puis j'ai vu ce groupe de jeunes volontaires qui pelaient des pommes de terre pour 3600 personnes. Et j'ai dit, ça, je sais faire. J'ai demandé si je pouvais avoir un éplucheur. Et j'ai épluché des pommes de terre pendant une heure. Ils se sont mis à rire. À rire. Toi, le Suisse, tu veux peler les pommes de terre avec nous? Et on a ri ensemble. Mais personne ne se comprenait, à part que tout le monde pelait des pommes de terre et tout le monde riait de bonne humeur. Nous pouvons servir le Seigneur avec nos petits doigts, avec notre cœur. Seigneur, et moi, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Tricoter avec ma voisine? Boire une bière derrière un match de foot avec mon pote? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et peut-être que ma voisine ou mon pote, la cinquième ou sixième fois qu'on se rencontre, le Seigneur me donnera une opportunité de lui parler de l'espoir que j'ai en lui. Amen. Il y a des possibilités, chez ACP aussi, de faire quelque chose. Vous pouvez prier. On a une lettre de nouvelles, un email qui passe tous les lundis matins. Vous pouvez vous inscrire ici dessus pour le recevoir. Donc il y a un mail de prière. Et puis aussi il y a notre journal que vous pouvez recevoir si vous vous inscrivez là. Tous les lundis matins, on prie pour la mission et pour des sujets spécifiques, parfois aussi de l'actualité. Vous pouvez partir en mission, notamment avec l'action Paquet de Noël. L'année prochaine, enfin cette année, du 20 au... Non, c'est pas vrai. Bon, ça, les dates sont dedans. Enfin, du 16 au 20 décembre, on part en Bulgarie pour aller distribuer des paquets de Noël dans les prisons. J'ai encore de la place, si ça intéresse quelqu'un. Je peux devenir ambassadeur de la mission, représentant la mission dans mon église et dans mon environnement. Je peux suivre ACP sur Facebook. ACP Suisse, c'est facile. Et puis, liker les différentes publications, puis les reporter plus loin. Et puis, je peux aussi donner, et notamment le centre de collecte d'habits que nous gérons en partenariat avec une organisation qui s'appelle ACP Genève, avec les Vermouths. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont travaillé ou qui travaillent encore. Hein, voilà. Ils ont besoin de monde, ils ont besoin de mains. Tu sais plier des habits, tu es utile au Seigneur. Ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de monde. Alors vous adressez aux gens qui sont déjà en contact pour venir leur donner un coup de main, si vous pouvez donner de temps en temps un après-midi. Voilà, toutes ces informations, vous les retrouvez sur acp-ch.org. Moi, j'aurais fini ici, mais j'aimerais qu'on se prenne peut-être quelques secondes pour se poser la question. Seigneur, on a vu des choses extraordinaires ce matin. Et on a vu qu'on pouvait aussi faire des choses toutes simples. Seigneur, donne-moi avoir une bonne idée. Comment je peux te servir? Quelque chose que je peux mettre en application rapidement pour ta gloire. De tout simple, auquel j'ai peut-être pas encore pensé. Et puis il y a peut-être des gens, vous faites déjà trop et vous vous épuisez. Et là, peut-être le Seigneur dit, si t'arrêtais ça, et puis t'arrêtais ça, puis tu te concentrais seulement là-dessus. Parce que c'est possible, les activistes. Mais Dieu veut pas qu'on s'épuise dans le travail. D'accord? Alors je vous propose qu'on prenne un petit instant pour réfléchir, pour laisser Dieu nous parler. Mais surtout, on laisse pas le diable nous parler et nous accuser. Amen? Parce qu'on n'est pas dans l'accusation. On est dans un défi, oui, mais on n'est pas dans l'accusation. Oui, Seigneur, tu nous appelles tous à ton service. Et tu dis même à tes disciples, oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin avec cette question. Et moi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Seigneur, donne-nous de la créativité, de l'imagination. Comment est-ce qu'on peut mettre nos talents, même tout petits, à ton service ? Aide-nous aussi à faire un tri dans nos activités, les choses qui nous épuisent ou qui nous pèsent. Aide-nous à faire des choix, de prendre des décisions, d'avancer avec toi et d'être des témoins de ton amour autour de nous. Merci pour ton aide, merci parce que tu nous tiens par la main, parce que tu ne nous abandonnes pas et parce que le travail, le final, la conversion, ça ne nous appartient pas, ça c'est ton travail. Merci Seigneur Jésus pour ta présence parmi nous ce matin. Amen.